Destination Maïmo, une émission en coproduction avec Sergic, présentée par Corentin Brabant, directeur de Maïmo, et Johanna Zilberstein sur Radio Imo.
Bonjour à tous, et oui, le retour du jingle le plus rock de Radio Imo pour vous annoncer le retour pour une deuxième saison de Destination Maïmo. Nous sommes toujours en direct de Maïmo à Roubaix pour cette série d'émissions que nous allons vous présenter de manière mensuelle. Et cette fois, on va s'y tenir, on y croit, il n'y aura pas de confinement. Je suis toujours en compagnie de Corentin Brabant, le directeur de Maïmo. Bonjour Corentin.
Bonjour Johanna.
Comment ça va en cette rentrée?
Très bien, je suis ravi de vous retrouver, ravi d'avoir des invités de marque aujourd'hui pour ce renouveau de Destination Maïmo.
Ah là, clairement, on démarre fort pour cette nouvelle saison. Je vous rappelle, Destination Maïmo, c'est l'occasion de rencontrer élus, entrepreneurs et start-upeurs qui font bouger l'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes très bien entourés puisque nous avons avec nous Guillaume Delbar, le maire de Roubaix. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. À vos côtés, on retrouve Jean-Christophe Levasseur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la condition publique. On reviendra dans quelques minutes sur ce que ça veut dire. C'est très joli, mais c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler innovation technologique et sociale dans la ville. C'est parti avec les consignes de sécurité.
Destination Maïmo, les consignes de sécurité.
Les consignes de sécurité, c'est le moyen de connaître et d'apprendre à connaître nos invités d'une manière un peu plus décalée. Et on va attaquer tout de suite avec le fameux, maintenant je crois qu'on peut le dire Corentin, le fameux qui tout double.
Effectivement, ça va nous permettre de connaître un petit peu plus nos invités. Alors ça va être très simple, je vais vous faire deux propositions successivement. Je vais commencer par vous Jean-Christophe et ensuite ça sera avec vous Guillaume. Et on va commencer par la première de la série. Alors, Jean-Christophe, plutôt Welsh ou carbonade flamande?
Carbonade.
Guillaume?
Welsh, puisqu'il a pris les carbonades.
Très bon. Et alors, dans la partie culinaire, est-ce que vous prenez les frites avec ou sans maillot?
Avec maillot, évidemment.
Évidemment.
Pas mieux. Pas avec mieux. Maillot.
Alors, une question très simple. Et si je vous dis un 10 mètres carrés à Paris ou un 100 mètres carrés à Roubaix?
Ah bah alors là, moi, j'ai choisi, puisque j'étais dans une vie antérieure... Pardon. Dans une vie antérieure, j'étais parisien. Et j'avais un 40 mètres carrés à Paris. Et je l'ai vendu il y a 2 ans pour acheter, effectivement, un 400 mètres carrés.
Ah oui, donc
à
on
Roubaix.
Est sur les bons ratios.
Donc c'est le bon ratio, ouais, tout à fait.
Guillaume?
J'ai fait aussi une dizaine d'années à Paris et je n'ai pas de regrets. Et je suis ravi d'être à Roubaix depuis un peu plus de 10 ans et d'aller de temps en temps à Paris, mais avec le plaisir d'être ici.
Tout à fait, on est bien d'accord avec vous. Alors, quatrième, plutôt Stéphane Bern ou Stéphane Plaza?
Bon, j'ai répondu en premier tout à l'heure. Je laisse la primeur à monsieur le maire.
Ah, y a des marres. Je fais une réponse de caricature de politique. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre
Stéphane... Il n'y a pas de piège. Hein,
non, c'est... mais... Stéphane Plaza, allez.
Allez.
On est dans l'enthousiasme, vous l'avez senti.
Oui, je vois bien. Et vous, Jean-Christophe?
Ouais,
Ok, Joker.
Non, pas Joker. Stéphane Plaza.
Quel engouement. On va essayer de changer. On va trouver un autre Stéphane pour la prochaine
session. Autant entre Welsh et Carbonade, il y avait de l'enthousiasme. Ouais, autant là, c'était
clair,
plus difficile.
C'était tranché.
On n'est pas préparé à ces questions.
Effectivement, c'est le but. Un petit peu plus élevé. Jean-Christophe, plutôt start-up ou entreprise familiale?
Je crois pas qu'il faille opposer les deux. C'est, je pense d'ailleurs le sens de la démarche que vous engagez ici, si j'ai bien compris. Pour ma part, j'aime bien m'inscrire quand même dans des histoires qui durent, là où je bosse. J'ai rien contre les startups. Je pense que je préfère, à titre personnel, essayer de réinventer des projets qui ont une histoire. Voilà.
Merci Jean-Christophe. Et vous Guillaume?
Moi j'aime bien la synthèse, et donc je dirais l'entreprise familiale, mais avec un esprit start-up et une capacité d'innovation.
Excellente réponse, merci beaucoup.
Ils sont bons aujourd'hui.
Ils sont très très bons, effectivement. On avait dit que c'était des invités de marque, mais à ce point-là, très bien. Merci de vous être prêté au jeu. Donc, les consignes de sécurité sont maintenant terminées. On va pouvoir passer au débat.
Eh ben oui, décollage.
Destination Maïmo, le décollage.
Alors maintenant, de se jeter à corps perdu dans le sujet du jour, innovation technologique et sociale dans la ville. Corentin, je vous laisse faire avec ça.
Eh oui, c'est un sacré challenge, surtout qu'on a plutôt des invités qui sont très sensibles à ces sujets. Ma première question, elle va être assez simple et j'ai envie de vous la poser à vous, Guillaume. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire de l'innovation technologique et sociale dans une ville, dans un quartier ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment est-ce qu'on peut faire ?
L'idée très simple, c'est de se servir des enjeux, des solutions nouvelles à trouver pour innover, parce que j'ai l'habitude de dire, si on pratique les mêmes exercices avec les mêmes règles, on aura les mêmes résultats. Je vous prends un exemple sur le logement vacant, qui est une des problématiques importantes qu'on a traitées depuis qu'on est arrivé, qui n'était pas une problématique politique très couramment traitée. On a trouvé une bonne idée à Liverpool, avec les maisons à une livre. On a travaillé pour l'adapter avec la Fabrique des quartiers, qui est une SPL spécialisée dans le logement ancien dégradé. Et puis on s'est dit, on teste, on expérimente. C'est ouais. Un peu ça l'esprit d'innovation, c'est de dire, il n'y a pas de grande solution miracle, mais en expérimentant, en testant, on peut trouver des choses intéressantes.
C'est tout à fait fidèle. Je suis allé voir votre profil LinkedIn tout à l'heure. Et en première phrase, il y a marqué bon, « Innover à Roubaix et dans les Hauts-de-France, voir grand, commencer petit et avancer vite ». Et je trouve que c'est tout à fait en adéquation avec ce que vous venez de nous répondre.
Oui, c'est l'esprit qu'on veut initier depuis qu'on est à Roubaix. C'est une ville qui a pas mal innové. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, notamment dans le logement social. Et c'est un esprit aussi qu'on veut parce qu'on pense que il y a une nécessité de trouver des solutions nouvelles et de les trouver au service de la population. La techno, c'est toujours un moyen, c'est jamais une fin.
Oui, effectivement. Et vous, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous pitcher en 20 secondes la condition publique et nous expliquer comment est-ce que vous faites de l'innovation technologique et sociale dans votre quartier ?
La condition publique, c'est un établissement culturel qui a été créé au sein d'un ancien site industriel, un conditionnement de la laine. Alors, comme j'ai que 20 secondes, je ne vous expliquerai pas ce que c'est que le conditionnement, tant pis pour vous. Mais en tout cas, c'est un site qui est patrimonial, qui est de très grande qualité, qui nous permet de travailler des projets artistiques très pluridisciplinaires. Et l'idée, depuis 2016, c'est de le transformer en véritable laboratoire pour la ville, parce qu'on est convaincu que cette transition, elle peut être technologique, elle peut être sociale, mais elle est aussi beaucoup culturelle, et les artistes peuvent nous aider aussi à changer la focale, à changer le regard. Donc comment la créativité, sous toutes ses formes, peut être un des ferments, un des leviers pour la transition d'un territoire. Comment à la fois les artistes s'emparent de ces enjeux pour nous en proposer des versions actualisées ou des versions nouvelles et décaler la focale, et comment en retour, et ben ça peut peut-être servir à débloquer des situations ou pas. Alors attention, je pense pas que les artistes soient là pour trouver des solutions, mais par contre pour contribuer à une révolution qui est donc technologique, sociale et très certainement culturel.
Et quels sont justement les impacts qu'ont les actions que vous menez à la condition publique sur le quartier du Pile, qui est un quartier sensible, qui est un quartier varié? Quels sont les impacts justement des actions que vous pouvez mener?
On en mène plein, alors il faudrait choisir. Ce que je peux donner un exemple, c'est le parcours d'art urbain. Comme on dit qu'on veut faire travailler artistes et enjeux urbains, la question de l'art urbain, du street art, on l'a vite investi. Ce parcours d'art urbain qui consiste à inviter des artistes à proposer des œuvres dans un dialogue avec le territoire, avec des formes parfois assez spectaculaires, c'est nous proposer de réenchanter un patrimoine qui est absolument magnifique. Roubaix, c'est un patrimoine bâti magnifique qui, par endroits, est peut-être en difficulté, mais en tout cas, on peut le regarder avec un regard de plaisir. Mais c'est aussi re-questionner cette relation à l'espace public. Et je revendique comme aussi des succès les fois où une œuvre a pu provoquer le débat sur qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace public, qu'est-ce que c'est qu'un espace public, comment ça se partage. Et voilà. Et donc, on a un parcours qui attire maintenant de plus en plus de monde, mais qui fait aussi la fierté des habitants du Pile. Et c'était un quartier qui était Monsieur le maire, vous m'excuserez l'expression, un peu comme un cul-de-sac. D'ailleurs, le projet d'aménagement a permis de recréer des axes traversants. Mais de la même façon que cette idée un peu d'un endroit où on n'en sortait pas forcément, puis on n'y allait pas, il n'y avait pas de traversée. Alors maintenant, il y a les grands axes urbains qui sont faits. Mais il y a aussi un parcours d'art dont les habitants sont fiers, auquel ils ont pu parfois même participer, mais qui attire du public extérieur et donc de recréer de la mixité d'usage dans l'espace public.
D'accord. Et quand on parlait espace public, justement, Guillaume, comment est-ce qu'on pourrait réinventer l'espace public ? Comment est-ce qu'on pourrait innover de manière, en raisonnant sans contrainte dans l'espace public, pour créer du lien, pour imaginer des quartiers
Vaste programme mais, et vaste question. Mais à travers l'exemple que donnait Jean-Christophe, il y a une condition qui est l'ouverture des quartiers, la capacité de communiquer. Il y a souvent des choses qui ont été conçues un peu comme des bunkers. Et moi, je vois aussi, puisque je suis vice-président de la région en charge de la rénovation urbaine, un point commun dans tous ces quartiers en rénovation, c'est la nécessité de les ouvrir sur l'extérieur, de donner des bonnes raisons de venir dans ces quartiers. Et l'exemple du PIL et du street art est assez intéressant, mais on pourrait multiplier les choses comme ça. Aussi de faire en sorte, et de ce point de vue-là, l'expérience menée à la condition publique depuis quelques années est tout à fait intéressante, d'associer les habitants. Oui. Pas de faire à leur place, pas de leur dire on va faire votre bonheur, dormez tranquille, mais bien de travailler avec eux. Et là, ça change la manière de percevoir les choses et de concevoir les projets.
Effectivement. Et cette association d'élus publics, privés est primordiale. Et pour revenir sur le sujet de l'innovation, quelles sont, selon vous, les complémentarités entre de l'innovation sociale et l'innovation technologique ? Guillaume.
C'est pour moi. OK. L'idée, comme je le disais, c'est souvent, on a parlé d'innovation techno ces dernières années. C'est rentré dans les mœurs. Et moi, pour tout vous dire, quand je suis devenu vice-président de la région, j'ai insisté pour avoir innovation sociale de manière précise, pour dire qu'on avait le même travail à faire de vulgarisation, d'évangélisation, pour dire que l'innovation techno, c'est très bien, mais l'innovation, elle doit être au service des habitants, des clients, et qu'on parle vraiment de la valeur ajoutée de chaque projet. Donc ça, c'est un élément majeur. C'est un élément majeur dans les quartiers où il y a beaucoup de travail à faire. C'est un élément aussi majeur parce que la techno, on voit bien que si on parle que techno, on a des résistances assez mécaniques de gens qui disent qu'il faut aller moins vite. Alors que si on parle solution et si on est orienté innovation sociale, ça parle à plus de monde pourvu qu'on soit capable d'être à l'écoute aussi des besoins et capable de trouver des solutions nouvelles. En toute humilité, c'est pour ça que je parlais d'expérimentation tout à l'heure, je crois moins que jamais aux grandes réformes qui viennent du haut et qui vont trouver des solutions. Je pense que les solutions, on les trouve sur le terrain en expérimentant, en tâtonnant, en avançant, puis en tirant les conséquences, en disant ça a bien marché, ça n'a pas bien marché. C'est un peu l'esprit dans lequel on travaille.
Effectivement, et au niveau expérimentation, du coup, Jean-Christophe...
Je peux prendre un exemple, justement, ouais. Qui a relié un outil technologique qu'on a à la condition publique. On s'est équipé progressivement sur des outils de Fab Lab, donc de fabrication numérique, imprimante 3D, découpe laser, etc. Mais c'est vrai que c'est des outils qui, en soi, sont passionnants, mais il faut qu'ils servent à quelque chose. Au sein du collège Baudelaire à Roubaix, c'est un collège qui accueille les enfants autistes d'un IME les espaces de la cour sont pas forcément partagés entre les différents types d'élèves. On a donc conduit un travail avec les élèves du collège Baudelaire qui ont pu modéliser des mobiliers communs avec des designers grâce aux outils du Fab Lab, passer très vite à de l'expérimentation très concrète, à de la prévisualisation. Et puis après, un passage à l'échelle avec notre atelier de construction où ils ont produit, c'était des solutions très simples. Je pense que c'était beaucoup plus le fait dans la démarche de les engager dans le fait de fabriquer ces objets. Mais aujourd'hui, eh bien, dans la cour du Collège Baudelaire, il y a des mobiliers qui ont été conçus par les élèves grâce à ces outils numériques, mais surtout dans une démarche d'inclusion et d'innovation sociale. Donc voilà un endroit, c'est un exemple, voilà, c'est un petit projet, mais qui illustre bien le fait que l'outil technologique peut être un levier social.
Comme quoi, effectivement, la conjugaison des deux innovations est vitale, est extrêmement complémentaire et créatrice de valeur, du coup, pour les habitants, pour les occupants, pour les entreprises et les collectivités.
Une petite anecdote d'ailleurs là-dessus, on a été la première ville en France à se lancer dans le zéro déchet en 2014-2015, et je me retrouve chez un grand éditeur de logiciels quelques mois après, ils me disent « Avec quelle techno vous avez bossé ?» Je leur dis « Avec la techno, les gens, en fait, c'est pas mal de bosser avec les gens, les technos, ça vient après. Ouais. » Donc j'étais un peu étonné de mon... J'ai explicité après, mais jamais on se pose la question d'abord de la techno, on parle projet d'abord.
C'est vrai, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes avant tout. En tout cas, c'est très bien. Je crois qu'on est bien dans le timing. Là, donc,
Et on est même très, très bien dans le timing. Vous êtes un homme nouveau, Corentin, pour cette nouvelle saison. On est pile à l'heure pour lancer l'atterrissage.
Destination Maïmo, l'atterrissage.
C'est le petit moment que j'aime bien de l'émission. C'est celui du mot de la fin, Corentin.
Effectivement, donc on va vous proposer, on est déjà à la fin de l'émission, on aurait adoré continuer, effectivement, ces sujets sont passionnants.
On reviendra.
Avec grand plaisir. Et on va vous demander de résumer en un mot ce qu'on vient de vivre en un peu de temps. Donc voilà, qui veut commencer en un mot pour résumer, et puis si jamais il y en a quelques plus d'autres, c'est pas très grave.
Je laisserai le mot de la fin à monsieur le maire, du coup je commence. On revendique à la condition publique le fait d'expérimenter en liberté, et de toujours voilà, garder cet esprit-là, expérimenter en liberté, ne pas se mettre de cloison sur ceci est artistique, ceci c'est plutôt du domaine du champ social. Ça peut se regrouper, ça peut se croiser et il faut tester.
Moi, je dirais travailler ensemble, parce que c'est souvent la clé du succès. À la fois avoir des collectivités qui sont capables de travailler entre elles, mais surtout être capable de travailler avec des gens qui ont des cultures différentes, avec le privé, les start-up, on disait les entreprises aussi familiales. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut être innovant, il faut éviter les barrières et faire en sorte de travailler ensemble au service du territoire. C'est la démonstration que vous faites avec Maïmo depuis quelques temps. Ça fait partie de l'ADN du projet et ça me paraît important pour l'avenir.
Merci messieurs. Voilà qui conclut cette première émission pour cette deuxième saison de Destination Maïmo sur Radio Imo. Merci à nos deux invités, Guillaume Delbar, maire de Roubaix, Jean-Christophe Levassor, directeur de la condition publique. Merci à vous, Corentin Brabant, d'avoir été à mes côtés pour cette première émission de la saison. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve dès le mois prochain avec un nouveau numéro de Destination Maïmo en direct de nos studios à Roubaix. À très bientôt.
Destination Maïmo, une émission en coproduction avec Sergic, à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr.